Voici les titres du journal.
Les demi-finales du concours national de la Fondation Sciences et Jeunesse se tiennent demain. Au total, 30 jeunes de 16 à 23 ans vont présenter leur projet. La blonaisanne Solène Galimberti sera l'unique représentante de la Riviera. Aller plus facilement à la rencontre des jeunes dans les différents lieux de la ville d'Aigle, c'est l'idée qui a conduit l'Association pour la jeunesse Aiglonne à acheter un vélo cargo électrique. On vous en dit plus dans ce journal. La pandémie a eu un effet négatif sur le moral des jeunes. Ils se posent donc de plus en plus de questions. Pour y répondre, un nouvel outil en ligne est disponible, la plateforme ontécoute.ch destinée aux 18-25 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes à Berne sur les agissements de la CIA suisse, les services secrets, la première du département fédéral de la défense et la seconde du Parlement. Explication dans ce journal. Et en ski alpinisme, les athlètes de la région se sont illustrés hier en ouverture de la manche de Coupe du Monde à Morgin. Et sur les circuits automobiles, l'heure est à la rentrée en Formule E pour Sébastien Buemi. On fera également une parenthèse du côté de Melbourne pour aller voir ce qui se passe sur les cours de l'Open d'Australie.
Et pour la météo, un temps bien ensoleillé est attendu pour cet après-midi, pour ce week-end. Le temps sera plutôt ensoleillé, on en parle à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Une blonaisanne va défendre les couleurs de la Riviera. Solène Galimberti participe demain aux demi-finales du concours national de la Fondation Sciences et Jeunesse. Actuellement étudiante en première année à l'Université de Lausanne, elle fait partie des 30 meilleurs jeunes scientifiques de Romandie. Pour se qualifier, pour la suite, elle devra présenter son travail de maturité réalisé au gymnase de Burier. Solène Galimberti en explique la thèse.
Donc mon travail il porte sur un sujet qui s'appelle la damnatio memoriae. C'est le nom qu'on donne à une condamnation qui était en vigueur dans l'Empire romain, qui visait à condamner la mémoire d'un empereur dont les actes étaient jugés mauvais, honteux. Et cette condamnation visait justement à salir sa mémoire, salir son image à travers la destruction de ses statues, de ses représentations, l'abolition de ses décisions, etc.
Et donc un petit parallèle aussi avec l'époque qu'on vit actuellement ?
Oui, exactement. On peut faire le parallèle avec différents phénomènes, notamment le phénomène de la cancel culture ou culture de l'annulation en français, qui vise en fait au final la même chose, à savoir salir l'image et la réputation d'une personne.
Donc si on revient sur le concours, c'est quoi tes attentes ?
Pour moi, ce concours, c'est avant tout une façon de me dépasser moi-même et de me défier pour voir justement qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable justement, est-ce que je vais réussir à présenter devant plusieurs personnes, devant des experts, mon sujet. Et puis, c'est surtout cette expérience-là qui m'intéresse et puis de me mettre moi-même au défi. La première chose que je vise, le prix que je pourrais gagner moi-même, c'est justement de réussir déjà à faire cette première partie et puis peut-être d'aller en finale.
Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur cette journée de samedi ?
Je pense que ce que je redoute le plus, c'est de parler en ligne, en fait, enfin, à travers justement l'écran de l'ordinateur, parce que je pense que ça change. C'est la première fois que je fais vraiment une présentation à travers une application comme Teams. Et pour moi, ça change quand même de la faire en présentiel.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Si son exposé séduit le jury, Solène Galimberti participera à la finale du concours qui aura lieu du 21 au 23 avril à Lugano.
Le canton de Vaud va renoncer au port du masque dans les écoles.
Celui-ci sera mis de côté dès lundi en primaire. Pour le secondaire, ce sera le 19 février. Les visages ne devront plus être couverts pour le sport ou le chant. Les cours de piscine pourront reprendre le 7 février. Les camps de ski se tiendront à nouveau à partir de cette date. Cet allègement des mesures est possible grâce à la dangerosité moindre du variant Omicron. Mais l'épidémie reste toutefois dans le viseur du canton, avec notamment une stratégie de test maintenue jusqu'au 28 février. Cécile Amarelle, conseillère d'État chargée notamment de la formation.
Nous allons continuer les autotests, c'est-à-dire ces testings ciblés. Dès qu'il y a 4 élèves absents dans une classe, nous donnons en fait aux élèves des autotests pour qu'ils puissent se faire tester à la maison avec l'aide de leurs parents. Et puis, il y a un deuxième système de testing ciblé qui est le testing qui est, disons, le fruit d'un croisement en fait de données entre les données du médecin cantonal et les données scolaires qui nous permettent de détecter ceux qui ont été testés au PCR positif et qui sont dans les classes vaudoises.
Des autotests devront également être réalisés au début et à la fin des camps de ski, un sujet de Joël Espy. Le canton de Vaud propose la dose de rappel du vaccin Pfizer contre le coronavirus aux 12-15 ans. Ceci est la suite des recommandations du 21 janvier émises par l'OFSP et la commission de vaccination. Les injections se feront uniquement sur rendez-vous dans les centres de vaccination, notamment du CHUV et de l'HRC de Réna. Les rendez-vous peuvent se prendre par téléphone dès aujourd'hui au 058 715 11 00.
Un vélo cargo électrique flambant neuf, joliment coloré et équipé d'un toit.
C'est le nouvel engin acquis par l'AJA, l'Association pour la jeunesse aiglonne. Elle entend s'en servir pour aller à la rencontre des jeunes de la ville en créant de l'animation. Car il ne faut pas se le cacher, à Aigle, comme partout ailleurs au demeurant, les 11-25 ans peuvent parfois causer des soucis. Ce dont convient Célia Dumoulin, elle est responsable et coordinatrice de l'AJA.
Alors effectivement qu'à partir du moment où il y a des gens qui se réunissent dans l'espace public, ça fait un petit peu du bruit, il y a du mouvement, il y a des choses qui s'y passent. Nous, l'objectif, c'est d'aller justement dans ces endroits-là pour faciliter le dialogue entre les populations autour de ces lieux-là. Et puis pour apaiser certaines tensions, parler auprès des jeunes des notions de respect, respect des lieux, respect du voisinage, respect entre eux. On ne cible pas que les jeunes, on est aussi présent pour les parents, pour la population, pour favoriser ce dialogue entre ces différents types de populations.
Allez, un petit coup d'œil, elle est comment cette jeunesse aiglonne aujourd'hui? Vous la percevez comment, vous qui vivez au quotidien avec elle?
On l'adore, on a beaucoup de plaisir à travailler avec cette jeunesse, elle est pleine d'envie, pleine de projets, pleine de questionnements aussi. Il y a quand même pas mal de choses ces temps qui ressortent, des interrogations, voilà, des petits soucis liés à la vie et puis à l'adolescence. Mais de manière générale, on a beaucoup de plaisir à travailler avec cette jeunesse qui a envie de faire des choses, qui a envie de se retrouver pour des animations.
Des soucis accentués par la pandémie?
Oui, entre autres. C'est vrai que c'est des périodes qui ont été plus ou moins difficiles pour certains jeunes et puis on se rend compte qu'il y en a certains qui ont de la peine à reprendre le bateau en marche. Ouais.
Vous avez fait des tests avec ce vélo, ça donne quoi?
Alors, on ne l'a pas encore testé, on l'a reçu un jour de neige. On n'ose pas encore le tester, on a vraiment envie de sortir en fanfare avec ce vélo en ville et puis d'arpenter toutes les petites rues de notre ville. Ça ressemble à un vélo de marchand de glace, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, l'objectif, c'est qu'on soit vu, donc je pense que ce sera atteint.
Ce sera atteint, c'est sûr. C'était Célia Dumoulin, interrogée par Yves Terrani. Ajoutons que la box située à l'avant de ce vélo cargo permet d'embarquer jeux, sonos, provisions et autres matériels. Bref, tout ce qui est indispensable pour mettre de l'ambiance. Vous dire encore que l'AJA a aussi pour objectif d'approcher les commerçants d'Aigle Cité afin de leur proposer un service de livraison d'achat à domicile réalisé par les jeunes. Et cela à raison d'une à deux fois par semaine. Enfin, sachez que ce projet de vélo cargo a reçu le soutien du Rotary Club Aigle.
Les 18-25 ans disposent d'un nouvel outil en matière de santé, ontécoute.ch, qui est en ligne depuis le mois de juin dernier.
Cette plateforme a été mise en place par le site d'information suisse romand ciao.ch. Son but, permettre aux jeunes de se renseigner sur des sujets comme la gestion de l'argent, l'administratif, la santé ou encore la sexualité. Pour cela, ils ont la possibilité de s'entretenir avec des professionnels. Si le but n'est pas de se substituer au centre d'accueil pour jeunes ou aux institutions, ontécoute.ch présente plusieurs atouts. Explication de la directrice de ciao.ch, Marjorie.
L'avantage d'une plateforme comme nous, c'est qu'on est accessible 24 heures sur 24, que vous avez un professionnel derrière qui va pouvoir vous aider ponctuellement et puis qui est gratuit. Et surtout, c'est anonyme. Il n'y a pas cette notion de tabou, de honte qu'on pourrait avoir dans un premier temps. Et puis après, notre idée, c'est vraiment de dire, si vous avez encore des autres questions ou que finalement on n'a pu qu'apporter un bout de votre réponse parce qu'il faudrait un suivi, notamment, avec un professionnel en face à face. Puis peut-être que la première prise de contact qu'ils ont eue avec ces professionnels à travers le site, ça peut les rassurer pour aller rencontrer, que ce soit un professionnel de la santé ou un travailleur social ou aller dans un centre de santé sexuelle, par exemple.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Une fois le premier contact établi, les jeunes peuvent ensuite être redirigés vers des cabinets professionnels comme le centre Ado Riviera situé à Montreux. Les certificats Covid vont être modifiés dès le 1er février pour des raisons de compatibilité avec les règles de l'Union européenne. La durée maximale de validité des certificats de vaccination seront raccourcies de 365 à 270 jours. Cette même durée sera appliquée en Suisse pour les certificats de guérison, lesquels pourront désormais être obtenus à la suite d'un test rapide antigénique positif, mais valable uniquement dans notre pays. Par ailleurs, il est important de veiller à ce que son attestation soit à jour avant de planifier un voyage.
Dans sa lutte contre le terrorisme et le piratage informatique, le service de renseignement de la Confédération ne peut agir que dans le cadre de la loi.
S'ils doivent espionner des communications dans leurs enquêtes, nos services secrets doivent obtenir l'aval du tribunal administratif fédéral. Or, cette procédure n'a pas été respectée durant des années, ce qui a amené le département fédéral de la Défense à ouvrir une enquête en janvier. En parallèle, le Parlement fédéral mène ses propres investigations. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami.
Les deux commissions de gestion des chambres du Parlement ont pour mission d'exercer un contrôle du Conseil fédéral et de l'administration de la Confédération. Une délégation de ces deux organes de surveillance a annoncé jeudi qu'elle renonçait à une enquête approfondie sur les faits litigieux reprochés à la division cyberattaque du service de renseignement de la Confédération. Mais que faut-il comprendre quand elle déclare qu'elle veut déterminer qui doit assumer la responsabilité des actes incriminés ? Philippe Bauer, conseiller des États neuchâtelois et membre de cette délégation des commissions de gestion.
Le problème de notre mission de haute surveillance est de savoir qui a su quoi, à quel moment et quelles décisions ont été prises par qui, à quel moment. Et c'est dans ce sens-là que nous souhaitons savoir à qui on peut reprocher une faute, que ça soit une faute dans la commission d'un certain nombre d'actes, et puis ça, ce sera plutôt l'enquête administrative qui l'établira, ou des fautes dans la surveillance de ce qui a pu se faire au service de renseignement.
Il semblerait que les faits incriminés se soient produits environ entre 2015 et 2020. Deux chefs différents qui se sont succédés au SRC. D'abord, il y a eu Marco Seiler, puis ensuite Jean-Philippe Godin. Est-ce qu'il est prévu que ces deux anciens patrons du renseignement suisse soient auditionnés par votre délégation ?
Peut-être, peut-être pas. Il est très difficile de vous dire quels seront les actes que nous accomplirons. C'est des actes qu'on va déterminer en fonction des éléments et des renseignements que nous avons obtenus et que nous obtiendrons encore.
Et Philippe Bauer insiste. C'est bien l'enquête administrative en cours, commanditée par le département fédéral de la Défense, qui doit déterminer pourquoi le service de renseignement a pu agir ainsi durant 5 ans.
Propos recueillis par Frédéric Nejad Toulami. Les mesures visant à enrayer la propagation de la grippe aviaire sont prolongées jusqu'au 15 mars. Cela concerne les régions le long des rives des grands cours d'eau et des lacs, a annoncé aujourd'hui l'Office fédéral des affaires vétérinaires. Pour rappel, la Confédération et les cantons avaient introduit ces mesures en novembre 2021, après la découverte du virus dans une exploitation dans le canton de Zurich. Les archives de l'ONU à Genève seront plus faciles d'accès pour le public dans le monde entier. Une plateforme sur laquelle des millions de pages de la Société des Nations, la SDN, ont été numérisées, a été lancée aujourd'hui par la Direction Générale. Sergueï Lavrov a affirmé aujourd'hui vouloir la diplomatie. Le chef russe de la diplomatie, justement, a répondu à l'appel des Américains à revenir à la table des négociations. Il a répété également que son pays ne souhaitait pas envahir l'Ukraine, comme le soupçonne Washington. Alors que dans le même temps, Alexandre Loukachenko était plus martial dans ses propos ce matin. Le dirigeant bélarusse a déclaré que son pays irait en guerre si son allié, la Russie, était attaqué. Il a promis d'accueillir, je cite, « des centaines de milliers de soldats russes en cas de conflit ». Près de 40% de la population souffre d'une pénurie extrême de nourriture au Tigré en Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Programme alimentaire mondial. La région est ravagée par la guerre depuis bientôt 15 mois. Raphaël Nadal a rendez-vous avec l'histoire dimanche à Melbourne. Il s'est donné une chance de devenir le premier joueur à remporter 21 titres du Grand Chelem au Grand Dam d'Axel. Le Mallorquin, s'est qualifié pour sa 29e finale d'un tournoi du Grand Chelem à la faveur de son succès. 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3 devant Matteo Berrettini. Il tentera de briser le signe indien dans cette Open d'Australie. Depuis son sacre en 2009, il a perdu 4 finales sur la Rod Laver Arena, 2 contre Novak Djokovic, 1 contre Stan Wawrinka et 1 contre Roger Federer. À 35 ans et 241 jours, l'Espagnol affrontera le vainqueur de la rencontre qui se joue maintenant, qui oppose Daniil Medvedev à Stefanos Tsitsipas. Et dans ce match, il y a actuellement 2-7 à 1 en faveur du Russe Daniil Medvedev, qui mène d'ailleurs 4-1 dans le 4e set.
En ski alpinisme, la Coupe du Monde à Morgins s'est ouverte hier sur plusieurs victoires suisses.
Dans la catégorie féminine des moins de 20 ans, Caroline Ulrich a tout de suite donné le ton. En finale du sprint, l'athlète de la Tour de Paix n'a laissé que des miettes à ses concurrentes. Sur le tracé morginois, agrémenté par un peu plus de 90 mètres de dénivelé, la Vaudoise s'est imposée avec plus de 20 secondes d'avance. Au terme de cette course, la coureuse de la Riviera pouvait donc avoir le sourire. Les impressions de Caroline Ulrich.
Je retiens que je peux parfois faire des sprints où tout se passe bien. Donc c'est déjà ça. Et puis très contente parce que c'est vrai que je savais que je pouvais gagner. Bon, j'ai pu le voir lors du dernier sprint de Coupe du Monde que j'avais les capacités d'être facilement devant en sprint. Mais encore faut-il le faire. C'est vrai qu'on a facilement des soucis. Ça, je les connais bien. Donc très contente d'avoir pu terminer avec autant d'avance et puis gagner ici à Mangin.
Il y a 3 semaines de cela, grosso modo, vous avez couru ici même au championnat de Suisse. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un avantage en vue de cette Coupe du Monde, en vue d'aujourd'hui ?
C'est difficile à dire. Ça a été un avantage parce qu'on savait à quoi s'attendre. Mais après, est-ce que ça a changé le résultat ? Je sais pas, j'en suis pas sûre, mais oui, c'est sûr que ça fait plaisir. C'était agréable de pouvoir savoir à quoi allait ressembler le sprint à l'avance, et ça, je pense que les autres nations n'ont pas pu l'avoir, donc c'est cool.
On va la laisser reprendre son souffle à Caroline Ulrich. De leur côté, les Chablaisiens Tobias Donnet et Kylian Granger n'ont pas connu la même réussite sur leur terre. Les deux Chorgues ont connu l'élimination en quart de finale. La grosse performance du jour sur ce sprint de Morgin a finalement été signée par Florian Ulrich, le frère de Caroline. 6e de cette épreuve, le skieur de la Tour de Paix a atteint pour la première fois de sa carrière la finale. Mais difficile de savoir ce qui a fait la différence au terme de la course pour Florian Ulrich.
Je sais pas vraiment. Bon, y a aussi une question de... Dans l'écart, c'est toujours un peu... avec qui on tombe, on a plus de chances de passer ou pas. Et puis après, j'ai l'impression que ça faisait déjà plusieurs sprints où je sentais que j'avais la possibilité d'aller plus loin, mais comme il y a souvent des problèmes techniques, des choses de ce genre, cette fois, j'ai à peu près tout bien fait. Donc c'est peut-être ça.
Essoufflé également après la course au micro de Julien Traxel. Après ce sprint initial à Morgin, la Coupe du Monde de ski alpinisme se poursuivra samedi, donc demain, au programme l'épreuve reine de l'individuel.
Sur les circuits automobiles, Sébastien Buemi part à l'assaut de sa 8e saison en Formule 1.
Le pilote d'Aigle sera au rendez-vous dans quelques heures de la première course de l'année à Diriyah en Arabie Saoudite. Présent depuis le début de ce championnat réservé aux monoplaces 100% électriques, le Vaudois sort d'une année compliquée. Pour la première fois de sa carrière, il n'a pas terminé parmi les 5 meilleurs concurrents. Le Chablaisien en était même très loin. Pour ce nouvel exercice, il s'agira donc de trouver une nouvelle dynamique, car le champion du monde 2016 sera en fin de contrat au terme de la saison. À 33 ans, comment voit-il son avenir en Formule 1 ? La réponse de Sébastien Buemi.
J'espère pouvoir continuer encore quelques années. Honnêtement, ça serait très très bien. Maintenant, voilà, il faut trouver la bonne opportunité, il faut être avec la bonne équipe. L'important, c'est de faire des résultats, hein, pas de participer. Donc, c'est encore un peu tôt maintenant pour parler de l'année prochaine, mais pour le moment, on va essayer déjà de bien se concentrer sur la première course. Et puis après, on verra bien comment les discussions évoluent et où et comment.
Mais la flamme pour la Formule 1, elle est toujours bien présente, toujours bien allumée.
Oui, oui, c'est pas parce qu'il y a eu une saison difficile qu'on n'a plus envie. C'est sûr que c'est un peu plus frustrant, mais après, d'un autre côté, voilà, cette saison, j'ai jamais terminé au-delà de la 4e place. 5 saisons dans les 3 premiers. Donc bon, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est presque normal qu'une fois, ça se passe moins bien, parce que bon, bah, ça dépend pas tout de moi non plus. Mais là, maintenant, l'objectif, c'est de revenir en force et de faire une belle saison 8, et après, on verra.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Cette saison 2022 de Formule E sera aussi importante, car il s'agira de la dernière pour les voitures de deuxième génération. Dès l'an prochain, place aux monoplaces Gen 3, appelées à être plus puissantes et plus légères.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Espace Torgon Liberté. 130 km de glisse à deux pas de chez vous. Plus d'informations sur torgon.ch.
Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi avec un mercure qui va indiquer au maximum 5 degrés en pleine, 1 à 1000 mètres et moins 2 à 2000 mètres. Pour ce week-end, eh bien tout d'abord samedi, le temps sera plutôt ensoleillé le matin et puis il deviendra de plus en plus nuageux l'après-midi avec un peu de pluie dans la nuit et aussi de la neige jusque vers 1400 mètres d'altitude. Et puis pour dimanche, le temps sera nuageux le matin avec un peu de pluie, de la neige des 1200 mètres et puis le temps deviendra de plus en plus ensoleillé. Il faudra aussi compter avec un vent du nord-ouest forcissant en montagne. Pour le mercure, ce week-end, de moins 3 à 4 degrés en pleine, de moins 5 à 2 à 1000 mètres et de moins 4 à 0 à 2000.